Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue au milieu de notre communauté. Une communauté comme nous l'avons vécu qui adore le Dieu de Jésus-Christ. Et je voudrais vous inviter tout de suite à la lecture de la parole de Dieu. Donc vous pouvez prendre vos Bibles, le texte va aussi s'afficher. Dans l'évangile de Matthieu d'abord, au chapitre 5, versets 13 à 16. Voici ce que Jésus dit. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et le deuxième texte dans l'épître, la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Depuis quelques semaines, nous réfléchissons, à l'aide de plusieurs textes bibliques, à ce que cela implique d'être disciple de Jésus. Nous avons notamment parlé du rapport du chrétien à l'Église, sa nouvelle famille en Christ. Nous sommes revenus sur le thème de la guerre contre le péché. Et j'en toucherai un mot encore tout à l'heure. Et puis la semaine dernière, c'est le rapport du chrétien à Dieu lui-même qui a été envisagé. Le chrétien qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus-Christ vit désormais une vie de piété, de profond respect pour Dieu, tous les jours de sa vie. Et ce matin, eh bien, nous parlerons du rapport du chrétien au monde. Et par monde, je désigne les non-croyants, celles et ceux qui rejettent Christ, qui n'ont pas reçu de Dieu un cœur nouveau, ni une vie nouvelle, et au milieu desquels nous vivons. Comment le chrétien est-il censé se comporter en société, avec les membres de la famille de sa famille qui ne connaissent pas le Seigneur, avec ses amis, avec ses camarades de classe, ses collègues, ses voisins, comment le chrétien est-il censé se comporter en société? Les deux textes que nous venons de lire sont très proches dans le message qui nous concerne ce matin. Dans l'un, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, qui définit leur identité et le comportement qui doit en découler. Et dans l'autre, c'est Pierre qui a sans nul doute assister au discours de Jésus et qui reprend dans cette lettre la pensée de son maître pour encourager les chrétiens de son époque. Et je vous propose donc d'examiner successivement ces deux textes avant de mentionner quelques applications pour nous. Alors dites-moi d'abord, à quoi reconnaissez-vous un fan de foot ? Alors, au lieu de désigner des personnes, dites-moi, comment on reconnaît en Stéphane le fait qu'il soit un fan de foot? Il en parle tout le temps, ses vêtements, son temps, son argent, ses connaissances sur le foot, sa transpiration. Alors, vous avez raison. À quoi reconnaissez-vous un fan de Taylor Swift? Le bracelet. Alors, on me désigne Élise. D'accord. Et comment on reconnaît en Élise qu'elle est fan de Taylor Swift? Elle chante des chansons. Alors, j'ai jamais entendu Élise encore chanter une de ses chansons, mais j'aimerais bien. Elle en parle, oui. Elle va au concert. Tout à fait. Elle a peut-être des posters dans sa chambre, je ne sais pas. Maintenant, plus sérieusement, à quoi reconnaissez-vous un chrétien? Quelqu'un? Est-ce quelqu'un qui se rend à l'église le dimanche? Est-ce ça un chrétien? Et le reste de la semaine, comment reconnaissez-vous un chrétien? À quoi peut bien ressembler sa conduite dans la vie de tous les jours? Au chapitre 4 et 5 de l'évangile de Matthieu, nous nous situons au début du ministère de Jésus en Galilée. Nous lisons ce qu'il proclame en public. « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Nous lisons aussi, dans ce même chapitre, qu'il appelle quatre de ses disciples, parmi lesquels se trouve Pierre. Jésus enseigne, Jésus guérit des personnes malades, et très rapidement, eh bien, des foules viennent à lui, de partout dans le pays d'Israël. Tout le monde veut voir Jésus. Et au début du chapitre 5, Jésus monte sur une montagne. Il s'assoit et il s'adresse à ses disciples. Dans l'évangile de Luc, nous avons la précision qu'il y avait une foule de ses disciples. Donc, pas simplement quatre disciples, mais une foule de ses disciples. Vous visualisez un peu la scène? Jésus assis sur une montagne, s'adressant à une foule de ses disciples. Et là commence son sermon sur la montagne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Vous avez remarqué dans les paroles de Jésus qu'il est d'emblée question du royaume des cieux. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Il est en train de dire que l'accès au royaume des cieux est accordé à celles et ceux qui le suivent. Ce sont eux les héritiers du royaume de Dieu. Et Jésus continue son discours. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Voilà celles et ceux qui sont bénis par Dieu, qui ont sa faveur. Voilà les normes du royaume de Dieu. Voilà les normes qui devraient être les nôtres si nous appartenons au Seigneur. Et c'est après cette partie que l'on a appelée les béatitudes que Jésus leur dit, dans le texte qui nous intéresse ce matin, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Voilà quelqu'un qui prêche aux foules de la part de Dieu et qui dit à ses disciples ce qu'ils sont maintenant. Avec ces deux images, le sel et la lumière. Alors commençons par le sel. Verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Alors contrairement au sel que nous avons dans nos cuisines, le sel de l'Antiquité n'était pas entièrement pur. Il était mélangé avec d'autres cristaux qui n'avaient pas le goût de sel précisément. Et donc lorsque ce sel qui était mélangé à d'autres cristaux entrait en contact avec l'humidité, qu'est-ce qui se passait? Eh bien ce sel finissait par perdre sa saveur. Il n'était plus bon et donc prêt à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Et c'est à cela que Jésus fait allusion, en soulignant que de cette manière, l'importance pour ses disciples, celles et ceux qui veulent le suivre, l'importance de jouer leur rôle en tant que disciples, en tant que témoins. Il a souvent été dit que le sel servait à la fois à la préservation de certains aliments et à l'assaisonnement. Comment pouvons-nous comprendre cette image? Quel est donc le rôle des disciples de Jésus sur terre? Alors, si nous pensons à l'assaisonnement, il est bien question de saveur. Le disciple de Jésus a ce petit quelque chose qui fait la différence. Lorsque vous ajoutez du sel dans un plat insipide, c'est ce qui fait la différence. Cela signifie que le disciple de Jésus se distingue du monde et il se distingue de la pensée du monde. Il est le sel de la terre. Et comme le sel ajouté, eh bien, quand le disciple est là, cela fait toute la différence. Si nous pensons plutôt à la préservation des aliments, il s'agirait de la manière dont le disciple de Jésus, par sa présence, par le bien qu'il fait, empêche la société corrompue par le péché de sombrer davantage ou complètement. Dans ce cas-là, le disciple joue ce rôle de préservation pour empêcher que la société puisse sombrer davantage par le bien qu'il fait et par sa présence. Et nous aimerions bien être ce chrétien qu'un pasteur gallois, Martin Lloyd-Jones, décrit ainsi. Quand ce chrétien entre dans la pièce, les autres, habitués à s'exprimer d'une manière grossière, changent leur manière de parler. Nous aimerions bien être ce chrétien qui fait la différence, n'est-ce pas ? Que lorsque nous entrons dans une pièce, celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui parlent d'une certaine manière que nous n'apprécions peut-être pas forcément, finissent par changer de langage parce que nous sommes là. Jésus dit bien à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais attention de ne pas perdre votre saveur et ainsi de devenir inutile. Dieu nous a placés dans ce monde pour jouer ce rôle de sel. Avons-nous tendance à l'oublier ? Passons à la métaphore de la lumière. Vous êtes, verset 14, la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que le monde, qui ne connaît pas le Seigneur, qui rejette le Seigneur, est gagné par les ténèbres, Jésus dit à ses disciples qui veulent le suivre qu'ils sont la lumière dans ce monde. Lloyd-Jones souligne que cette image de la lumière nous rappelle, et ça c'est vraiment important pour nous, nous rappelle combien c'est une chose remarquable et glorieuse que d'être chrétien. Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière. C'est tellement glorieux de savoir que c'est ce qui nous concerne. La lumière du monde, par association avec celui qui est la véritable lumière, Jésus. Et déjà au chapitre 4, Matthieu montre que le ministère de Jésus en Galilée accomplit une prophétie d'Ésaïe. Cette prophétie que nous citons parfois à Noël. Ce que nous lisons en Matthieu 4, verset 16, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Et c'est à propos de Jésus que cela est dit. Jésus est la lumière que Dieu a envoyée dans le monde enténébré. Et tous ceux et celles qui marchent à sa suite deviennent aussi lumière. D'où cette déclaration de Jésus à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Mais attention, comme le sel, il y a le risque de devenir inutile. Une lampe est faite pour éclairer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le cas? Et là, je vais demander à ma chère femme de pouvoir m'apporter deux objets pour illustrer cela. Les deux, oui. Enfin, en tout cas, ce qui est dans le sac. Alors, on va faire la démonstration sur la table. En fait, je vais juste illustrer ce que Jésus nous dit. Une lampe allumée, comme celle-ci. Hein. Et lorsqu'on y pose, voilà, ça va encore mieux illustrer les choses. Et si on y pose par-dessus un seau, alors ça c'est un pot de fleurs, mais ce n'est pas grave, un seau, qu'est-ce qu'on constate ? Alors, on perd de la lumière, mais surtout, la lumière ne sert à rien. Une lampe placée sous un seau fait sans doute partie des choses les plus inutiles qui soient. Vous voyez bien, elle ne sert à rien. Voyez-vous où Jésus veut en venir ? Si le disciple de Jésus se cache au milieu des hommes, il est comme cette lampe inutile. Si le disciple de Jésus se cache au milieu des hommes, sans qu'on sache qu'il est disciple de Jésus, il est comme cette lampe inutile. Une lumière est faite pour briller. Et on va enlever le seau, parce que c'est la lumière qu'on veut voir. On peut aussi rallumer en même temps. En entendant les paroles de Jésus, nous pouvons déjà nous demander : quel genre de chrétien est-ce que je suis ? Le genre à briller devant les hommes ou le genre à me faire discret ? Le genre à révéler ma foi ou le genre à m'en cacher, à faire en sorte que les autres ne connaissent pas ma véritable identité ? Si vous êtes disciple de Jésus, et seulement si vous l'êtes, souvenez-vous de ce qu'il dit à votre sujet. Vous êtes la lumière du monde. Dieu vous a placé dans ce monde pour briller. C'est votre rôle dans ce monde. C'est pour ça qu'au verset 16, Jésus insiste que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Qui voit ta lumière ? Qui voit tes bonnes œuvres ? Qui voit que le fait d'être chrétien fait de toi quelqu'un de vraiment différent des autres ? Ce qui importe pour les disciples de Jésus, ce n'est pas de briller par leurs bonnes œuvres et d'attirer les regards sur eux. Cela ne nécessite pas un charisme particulier, ou même d'être extraverti, ou même d'avoir suivi un séminaire sur le leadership. Il suffit juste d'être toi. Un chrétien, une chrétienne, un disciple de Jésus qui se comporte comme Christ. Il suffit juste d'être toi. C'est ton identité. Tu es la lumière, contrairement au monde qui est ténèbres. Ce qui importe pour les disciples de Jésus, ce qui vraiment et le plus important, c'est de briller de telle sorte que ceux qui sont dans les ténèbres, en les voyant agir et vivre, finissent par célébrer la gloire de Dieu. Oui, si nous nous comportons d'une certaine manière différente de ce que nous voyons dans ce monde, c'est avant tout pour honorer Dieu. C'est sa gloire qui compte à nos yeux. Et nous y reviendrons. Le message de Jésus est donc clair pour ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Comportez-vous comme tel parmi les hommes, afin que toute la gloire revienne à votre Père céleste. Et Pierre va reprendre en partie le même message. Et j'en viens donc au texte d'un Pierre chapitre 2. Pierre qui adresse sa lettre à des chrétiens qui sont dispersés dans plusieurs provinces romaines d'Asie mineure. Et il sait que ces chrétiens en particulier souffrent à cause de l'hostilité qu'ils rencontrent dans leur entourage social. Ils sont chrétiens et ils souffrent à cause de cela. Et Pierre veut, par cette lettre, les encourager en leur rappelant d'abord ce que Dieu a fait pour eux dans sa grande compassion. Dieu les a choisis. Dans le monde, Dieu les a choisis. Dieu leur a donné une espérance vivante avec la ferme assurance qu'il les garde par sa puissance pour le salut qui est encore à venir. Et de ce fait, Pierre, exhorte à vivre une vie sainte en conformité avec ce qu'ils sont désormais et non plus avec ce qu'ils étaient. En effet, rachetés par le sacrifice de Christ, ils sont membres du peuple qui appartient à Dieu. Retenons, dans sa grande compassion, Dieu a fait cela pour eux. Et nous pouvons aussi affirmer que Dieu a fait cela pour nous, si notre foi est en Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il a fait cela pour nous. Comment celles et ceux qui ont bénéficié d'une si grande compassion, d'une si grande grâce de la part de Dieu, doivent-ils vivre parmi les contemporains, leurs contemporains qui ne connaissent pas Dieu ? Eh bien, la réponse se trouve aux versets 11 et 12 du chapitre 2. Je vais demander à Damaris de m'apporter l'autre objet en question que j'ai prévu. Certains étaient intrigués pourquoi je suis venu avec une valise. Alors, dès que vous apercevez une personne avec une valise, spontanément, vous imaginez quoi ? Vous imaginez le voyage, vous imaginez le tourisme, vous imaginez qu'elle part en voyage ou qu'elle en revient. Spontanément, ça nous vient à l'esprit, n'est-ce pas ? Je ne suis pas le seul à imaginer ça lorsque je vois une personne avec une valise. En tout cas, la valise indique que la personne était en déplacement. Et si elle va à l'étranger, elle aura toujours sa valise quelque part avec elle. Sa valise indique qu'elle n'est pas chez elle, qu'elle n'est pas dans son pays. Et ce n'est qu'une fois rentrée à la maison qu'elle défait normalement sa valise et qu'elle la range. En tout cas, chez elle, cette personne n'a pas besoin d'avoir tout son nécessaire dans une valise. Et j'espère que chez vous, vous n'avez pas besoin d'une valise qui contient tout votre nécessaire, parce que vous êtes précisément chez vous. Frères et sœurs, cette valise illustre ce que l'apôtre Pierre est en train de dire au début du verset 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. Autrement dit, les chrétiens, depuis qu'ils appartiennent à Dieu, ne sont que des voyageurs sur cette terre. Ce sont des pèlerins avec, dans la version moderne, leur valise. Toujours avec eux. Parce que ce sont des résidents temporaires. Parce que ce sont des étrangers. Dans ce monde, ils ne sont plus chez eux. Dieu les a rachetés par Christ pour faire d'eux une nation sainte qui n'est pas inscrite sur le registre de l'ONU. Ils ont un héritage dans le ciel, une patrie céleste qui les attend. Donc ils sont toujours avec leurs valises. Et dans ce cas, les chrétiens sont bel et bien des étrangers dans ce monde, parce que leur véritable patrie est ailleurs. Et par conséquent, ils doivent se comporter comme des étrangers et non pas suivre les coutumes de ce monde hostile à Dieu. D'où cette exhortation de Pierre à renoncer aux désirs, aux passions, aux convoitises auxquelles ces chrétiens avaient l'habitude de céder avant de connaître Christ, quand ils faisaient encore partie du monde. Mais désormais, ils doivent s'en abstenir puisqu'ils sont étrangers. Bien-aimés, verset 11, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ces mauvais désirs qui sont encore présents en nous, il s'agit de ne pas les laisser s'exprimer. Et dans ce monde qui nous entoure, ces mauvais désirs trouvent toute leur place, c'est vrai. Si nous regardons autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, ces mauvais désirs trouvent toute leur place. Or, si nous sommes des étrangers sur cette terre, ces coutumes-là ne sont plus les nôtres. Si nous sommes des étrangers sur cette terre, cette culture-là n'est plus la nôtre. Et quelle culture ? Pierre dit au début du chapitre 2 ce qu'il faut rejeter désormais. 1 Pierre chapitre 2 verset 1 « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Pierre s'adresse à des chrétiens et il sait que ces vices en question que le Seigneur a en horreur ne peuvent caractériser des enfants de Dieu. Si ces péchés faisaient partie de leur vie d'avant, maintenant devenus étrangers sur cette terre, en qualité de résidents temporaires, ils ne doivent plus se laisser séduire. Au contraire, en même temps que cette lutte contre le péché, Pierre exhorte, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. » Afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et c'est à cet endroit, dans ce verset 12, que nous retrouvons le message de Jésus, « Que votre lumière brille parmi les hommes. » Au lieu de la méchanceté, de l'hypocrisie ou de l'envie, ayez une bonne conduite. Parce que vous ne partagez pas les valeurs de ce monde. Vous êtes des étrangers sur cette terre. Et du fait de la différence entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas, il se peut que le bien que nous faisons soit considéré comme mal aux yeux des autres. Nous avons un exemple très clair dans la suite de la lettre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, versets 3 et 4. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Les chrétiens sont devenus étranges parce qu'ils se comportent différemment. C'est bizarre. Ils s'abstiennent des mauvais désirs. Ils ne se laissent pas aller comme tous les autres. Tout ça parce qu'ils sont chrétiens. Du coup, le comble dans l'histoire, c'est que ce qui est bien aux yeux de Dieu devient mal aux yeux des hommes. Nous savons qu'à l'époque du paganisme antique, les chrétiens étaient par exemple traités d'athées. Ils n'ont qu'un respect pour les dieux. Ils ne font pas de sacrifice à Jupiter. Ils n'adorent pas l'empereur qui est pourtant un dieu. Les chrétiens étaient rejetés parce que radicalement différents. Parce qu'ils étaient des étrangers sur la terre. Entendons une fois de plus l'exhortation de Pierre. Ayez une bonne conduite. Et vous voyez ici la finalité, afin que les non-croyants voient les bonnes œuvres des chrétiens et qu'ils glorifient Dieu au jour, littéralement, de sa visite. De nouveau, le bien que nous pouvons pratiquer dans notre quotidien doit servir à orienter les regards vers Dieu et non pas vers nous. Nous n'agissons pas bien pour que les gens puissent nous applaudir. Nous agissons bien pour qu'ils puissent honorer Dieu et se tourner vers lui. Voilà notre motivation. Qu'en voyant une telle conduite qui est tellement radicalement différente, les non-croyants finissent par rendre gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication à cela. Et les commentateurs comprennent diversement l'idée du jour de l'intervention ou de la visite de Dieu. Pour les uns, c'est une référence au jour où Dieu interviendra en eux pour qu'ils évaluent avec lucidité les bonnes œuvres du peuple de Dieu. Et puis pour les autres, c'est une allusion au jour du jugement, là où tout homme, de toute manière, reconnaîtra sa justice et lui rendra gloire. Dans tous les cas, ayons confiance que Dieu saura utiliser notre bonne conduite, une conduite distinctive, propre au peuple de Dieu. Et la calomnie et le mensonge, qui sont les armes du diable, ne doivent pas nous déstabiliser. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié et que tôt ou tard, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur reconnaîtront. Ils finiront par reconnaître. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera au jour du jugement. Reconnaîtront le bien que le peuple de Dieu a fait. Et cela nous encourage à persévérer dans la pratique des bonnes œuvres. Car en tant que peuple de Dieu, nous avons en vue sa gloire. Et après avoir dit tout cela, j'en arrive à quelques applications. Quel est le rapport que doivent entretenir les disciples de Jésus avec le monde. J'évoque trois pistes pour appliquer justement les deux textes que nous avons examinés. Premièrement, et c'est ce qui m'a le plus rappelé à l'ordre, soyons visibles et soyons différents. Soyons visibles comme la lumière et soyons différents comme le sel de la terre, comme des étrangers sur cette terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous n'avons pas à en avoir honte ou à nous en cacher. Et celles et ceux que nous côtoyons le plus souvent doivent savoir que nous appartenons au Seigneur et doivent comprendre que c'est en raison de la grâce de Dieu envers nous que nous nous comportons d'une manière qui leur paraît étrange. Oui, nous ne vivons plus pour les convoitises après lesquelles court ce monde. Gloire, sexe et argent. Car nous avons en vue quelque chose de bien meilleur. Dieu s'est révélé à nous. Dieu a eu compassion de notre état misérable en tant que pécheur qui n'arrivait pas à s'en sortir. Nous l'avons prié tout à l'heure. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que par sa mort sur la croix et par sa résurrection, nous soyons pardonnés de tous nos péchés, réconciliés pour toujours avec lui. Et Dieu nous a donné une espérance merveilleuse en nous promettant d'avoir part à son royaume. Et c'est bien meilleur que la gloire, le sexe et l'argent. Avant, nous ne faisions pas partie de son peuple et il est allé nous chercher. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Si nous sommes si différents du reste du monde, c'est en fait à cause du Seigneur. Et le monde doit le voir par les bonnes œuvres que nous pratiquons. Chacun de nous, frères et sœurs, est la lumière du monde. Mais nous le sommes aussi collectivement en tant que communauté, en tant qu'Église. Et j'aime l'image que Jésus emploie, l'image d'une ville qui ne peut pas rester cachée parce qu'elle est sur une montagne. Tout le monde peut l'apercevoir, cette ville. À Saint-Maur, et particulièrement dans le quartier de la Pie, nous avons gagné un peu en visibilité. Je pense à l'après-midi portes ouvertes lors de la brocante. Je pense à l'association des riverains de la Pie qui nous connaît maintenant. Et cette année, comment notre lumière peut-elle briller encore en tant que communauté? Comment pouvons-nous montrer que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment différents? Peut-être que certains vont nous calomnier, nous rejeter à cause du bien que nous faisons. Et quel bien pouvons-nous faire dans cette ville aux 75 000 habitants? Si vous avez des idées, j'amorce juste ici une réflexion. Si vous avez des idées, des suggestions, venez en parler à Samuel Taille, notre diacre évangélisation, ou à moi-même. Si vous avez des idées à ce sujet, comment on peut briller davantage en tant que communauté, comme une ville sur une montagne, venez nous en parler. On a besoin aussi de vos idées. Comment pouvons-nous être la lumière du monde et de Saint-Maur? L'église de la Pie est la lumière de Saint-Maur. Deuxièmement, deuxième application, repensons le rapport identité-conduite. Je m'explique. Un fan de foot est reconnaissable à son comportement. Un fan de Taylor Swift aussi. Un disciple de Jésus, à cause de son identité nouvelle, doit aussi être reconnaissable à sa bonne conduite. Cela ne signifie pas que c'est facile, ni que le chrétien est parfait. Mais vous avez remarqué dans les deux textes que nous avons lus que nous commençons par l'identité. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ou en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Si vous appartenez à Christ, c'est ce que vous êtes. Sel de la terre, lumière du monde, étranger sur cette terre. Ensuite, c'est une fois qu'on a abordé la question de l'identité, on aborde la question de la conduite, du comportement. Que votre lumière brille devant les hommes. Ayez une bonne conduite. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons différents dans ce monde. Repensons notre rapport identité-conduite. À quelle identité ta conduite correspond-elle ? N'oublions pas qui nous sommes désormais, des étrangers sur cette terre, qui résistent avec le secours du Saint-Esprit aux convoitises de ce monde. Nous nous rappelons, comme le dit l'apôtre Pierre, que par le sacrifice de Jésus, Dieu nous a rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Dieu nous a rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, de la vaine manière de vivre que vous avez transmise vos ancêtres. Dieu nous a arrachés à ce mode de vie que nous voyons autour de nous, toujours à courir après la gloire, le sexe et l'argent. Notre patrie et notre demeure sont ailleurs. Notre cœur est attaché aux réalités d'en haut, là où Christ est assis. Et en toutes circonstances, il s'agit pour nous de nous comporter en chrétiens, parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre identité. Que ce soit à la maison ou au dehors, mon identité ne me quitte pas. Je ne l'étouffe pas comme une lampe placée sous le seau. Et cette semaine, quand vous démarrerez votre journée, pensez aux paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Les autres qui ne connaissent pas le Seigneur ne le sont pas, mais vous, vous l'êtes. Donc par rapport aux autres, vous êtes radicalement différents. Vous êtes le sel à lumière, les autres ne le sont pas. Vous êtes donc radicalement différents. Vous vous comportez d'une manière radicalement différente par rapport à vos amis, à vos collègues, à vos voisins ou aux autres membres de votre famille. Repensons le rapport identité-conduite. Et enfin, après avoir dit tout cela, le but que nous visons par-dessus tout. Alors oui, peut-être que le but intermédiaire, c'est que les gens puissent remarquer notre belle manière d'agir. Mais ultimement, nous faisons tout et nous vivons pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous visons. Afin que les hommes voient les œuvres que nous pratiquons et qu'ils glorifient Dieu. Voilà en quoi consiste notre témoignage. Sinon, il n'y a pas de témoignage s'ils ne finissent pas par glorifier Dieu. Il ne suffit pas juste qu'ils puissent voir qu'on agit bien. Ils doivent comprendre. Et il s'agit pour nous de leur expliquer pourquoi nous agissons de cette manière. Si les gens nous trouvent simplement gentils, cela ne fait pas une grande différence. Beaucoup de nos contemporains font preuve de bonté, de générosité et de compassion. Si les gens nous trouvent simplement gentils, cela ne fait aucune différence. Ce qui nous distingue, c'est que nous vivons selon les normes du royaume de Dieu. Et que nous visons la gloire de Dieu et non la nôtre. Être charitable simplement pour être vu des autres ne vise pas la gloire de Dieu. Suivons plutôt ce que Jésus nous dit. Et Lloyd-Jones suggère, et je trouve que c'est une bonne idée, que nous puissions lire chaque jour, avant de mettre le pied dehors, les béatitudes. Pour nous rappeler ce qui doit nous caractériser et qui nous distingue des autres. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Et si l'on vous demande à un moment donné pourquoi vous agissez de cette manière, vous pourrez parler du texte que vous lisez chaque jour. Ce n'est pas un mantra qu'on se répète machinalement, pas du tout. C'est plutôt le rappel nécessaire et constant dans notre quotidien que nous sommes étrangers sur cette terre. Et nous avons foi à cause des textes que nous avons lus aujourd'hui, que lorsque Dieu interviendra dans la vie de notre entourage, ils verront nos bonnes œuvres et qu'ils glorifieront Dieu. Alors je conclus maintenant. Pourquoi les disciples de Jésus devraient-ils vivre d'une manière si différente? Précisément parce que Jésus a vécu de cette manière. Sa vie parfaite en tant qu'homme s'illustre par le fait qu'il était radicalement, entièrement différent des autres hommes. Oui, c'est bien lui qui applique parfaitement les normes du royaume. Il est doux, il a soif de justice, il fait preuve de bonté, il a le cœur pur, il est l'artisan de paix par excellence. Quand il était sur terre, certains ont glorifié Dieu en voyant le bien qu'il faisait. Et d'autres l'ont calomnié et persécuté jusqu'à la mort. Les serviteurs que nous sommes ne sont pas plus grands que notre maître. Et en tant que chrétiens, nous devons nous attendre à ces deux réactions. Des gens qui se tournent vers Dieu et des gens qui se retournent contre nous, malgré le bien que nous faisons. Mais quel honneur! Quel honneur c'est pour un disciple de Jésus de ressembler à ce point à son maître. C'est bien à Jésus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est bien à Jésus que Dieu veut nous faire ressembler. C'est dans ce but qu'il nous transforme. Et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans notre vie de disciple. Et retenons aussi que c'est par son Église, par ses enfants, que Dieu se manifeste au monde. Parce qu'aucune autre communauté sur cette terre, aucune autre, ne joue le rôle que joue l'Église, à savoir le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Prions ensemble. Aussi longtemps que cela est nécessaire, Seigneur, rappelle-nous ces paroles que nous venons de méditer. Tant que, Seigneur, nous nous trouvons sur cette terre, nous savons que nous sommes étrangers à ce monde, que nous ne voulons pas suivre les convoitises de ce monde, que nous ne voulons pas laisser nos mauvais désirs s'exprimer à la manière de celles et ceux qui nous entourent. Oui, tu nous as placés dans ce monde pour que nous soyons radicalement différents, comme notre Seigneur Jésus l'était. Et merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi pour produire tout cela en nous, pour nous utiliser dans notre témoignage, pour que nous puissions être semblables à une lampe qu'on met sur son support et qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que nous puissions jouer ce rôle, effectivement de sel et de lumière. Et aide-nous en tant que communauté à pouvoir le vivre aussi au sein de cette ville où tu nous as placés, au sein de Saint-Maur, du quartier de la Pie, parce que là aussi, la lumière doit briller devant les hommes, notre lumière. Et tout cela, Seigneur, pour que non seulement celles et ceux qui sont autour de nous puissent voir nos bonnes œuvres et les reconnaître comme telles, et surtout qu'ils puissent rendre gloire, te rendre gloire. Seigneur, peut-être que cela nous amène à devoir changer notre manière de vivre. Peut-être qu'auparavant, nous avions tendance à être discrets et à nous cacher. Mais merci parce que tu nous encourages ce matin par ta parole à ce qu'il n'en soit pas ainsi et que notre lumière brille devant les hommes. Pour la gloire de ton nom. Amen.